Remue-ménage, c'est Onde Femme sur Radio Zone 93,8 tous les mercredis en direct de 17h à 18h30. L'émission est rediffusée le jeudi à 10h et 15h. Remue-ménage sur Radio Zone 93,8. Remue-ménage aujourd'hui, ce mercredi 29 novembre. Il fait fort froid dehors, on se réchauffe à nombreux dans ce studio aujourd'hui puisque nous avons un programme bien rempli pour cette fin d'après-midi. D'abord, nous recevrons, comme de coutume peut-être, maintenant j'espère que ça s'installe, Annette Timmerman et Evelyne Merlard pour nous présenter deux nouveaux livres qui ont été saisis des étagères de la librairie de l'Inédit, deux livres qu'elles nous proposent pour les longues soirées d'hiver. Et puis, après coup, eh bien, nous partirons en voyage avec les jeunes de Coup de main. Rappelez-vous, Olivia, Emmanuel et Christophe, qui nous avaient parlé en mai dernier de leur prochain départ pour leur Brésil avec l'association Coup de main, qui y sont allés et qui en reviennent pour nous raconter toute la richesse de leur voyage. Alors voilà notre programme pour aujourd'hui. Quelques musiques pour nous mettre dans l'ambiance.
Thank you.
Bonnie Tyler pour commencer cette fin d'après-midi. Alors Evelyne, tu nous as choisi un livre bien particulier puisqu'il nous entraîne dans une histoire qui n'est plus tellement de ce temps et dans une histoire qui à la fois est encore extrêmement d'actualité en ce moment. Comment s'appelle le livre que tu as choisi pour nous ?
Alors le livre s'appelle « Blond étaient les blés d'Ukraine ». Un titre assez nostalgique. Mais l'auteur est un personnage assez hors du commun. Vous verrez que le témoignage qu'elle apporte, parce que c'est un témoignage sur son enfance et son adolescence, est très vigoureux et pas vraiment nostalgique. Mais le titre l'est. L'auteur, je l'ai vu à apostrophe, il y a peut-être 15 jours. Et elle est surprenante parce que c'est une femme qui doit avoir dans les 90 ans, peut-être un petit peu moins. et qui a une clarté d'esprit, une force, une mémoire prodigieuse qui nous réjouit beaucoup dans le fond, parce qu'on se dit que souvent la vieillesse inquiète, et vraiment chez elle, c'est pas le cas. Elle avait en face d'elle plusieurs hommes qui avaient certainement 20 ans de moins qu'elle, et je la trouvais beaucoup plus vivace que tous ces gens-là. Et d'ailleurs, ils étaient bouche bée devant elle, devant ce qu'elle racontait. Alors, dans ce livre, qui est un gros livre de 406 pages...
Pour les longues soirées d'hiver.
Pour les longues soirées d'hiver qui viennent. Elle nous raconte donc son enfance qui se passe au début du siècle en Russie. C'est une aristocrate. Elle vient d'une famille d'aristocrates. Elle épousera d'ailleurs au début de sa jeunesse un prince. Son nom de Gagarine est le nom de son mari qui était un prince. Bon, un de ces princes qui est devenu chauffeur de taxi à Paris après la Révolution. Hein, mais un prince tout de même. Et donc, elle va nous décrire un mode de vie qui a disparu aujourd'hui en Russie. C'était le mode de vie des aristocrates à la campagne.
Donc avant la Révolution, je pense que son âge, effectivement, nous le fait comprendre. Elle a vécu cette époque-là et surtout, les aristocrates ont bien sûr disparu avec la Révolution russe.
Absolument. Et alors, ce qui est assez étonnant, c'est de voir à la fois les grandeurs et les petitesses de ce mode de vie. Parce que dans le cas donc, de Marie Gagarine, la famille habite un château, fait construire un château sur des terres immenses, un très grand château, mais dans lequel vont œuvrer une armée de domestiques. Il y a des bonnes, des chauffeurs, des gouvernantes, des femmes de chambre, des cuisiniers, des jardiniers, un gérant pour l'ensemble du domaine. Enfin, il y a vraiment une foule de gens autour d'eux pour les servir. Et en même temps, on se rend compte que le confort est vraiment minime. Le chauffage se fait avec de grands poêles et enfume très souvent toutes les chambres. L'hiver, on grelotte. Elle parle des engelures qu'elle avait toujours aux mains, des toutes tonitruantes qu'avaient tous les enfants tous les hivers. Apparemment, les parents s'en faisaient pas trop. Un mauvais confort aussi du point de vue de l'éclairage. Par exemple, ils s'éclairent à la lampe à pétrole partout et ils ont une servante qui ne s'occupe que de ça, de s'occuper de ces lampes à pétrole et de réviser les mèches, etc. Les communs sont situés loin du château, si bien que quand on veut une tasse de thé, il faut attendre des fois 3 heures, parce que le temps de prévenir la personne qui va aller chercher l'eau, faire chauffer, enfin, etc. C'est toute une...
Donc c'est dur, la vie de château en Russie.
Exactement, c'est pas du tout... on a beau habiter un château, ce château est pas très confortable, il n'y a pas l'eau courante, amener l'eau est toute une affaire. Et alors, ça donne une... Elle décrit très bien tout ce mode de vie. Et ça peut-être nous enlever quelques espèces de stéréotypes qu'on peut avoir. Dès qu'on on parle du mot aristocrate, on imagine des richesses, de l'abondance, du confort, etc. C'est pas nécessairement ça, en tout cas pas à la campagne.
Il faut quand même dire que la Russie, très certainement à ce moment-là, vivait quasi encore à l'époque du Moyen-Âge pour l'Europe, dans le sens, non seulement dans le confort que tu décris, mais aussi les rapports avec les personnes. On traitait les gens comme des serfs et des esclaves, ceux qui travaillaient pour les châteaux, non ?
Oui, alors...
Elle en parle, ça, ce type de rapport de féodal qui devait exister entre les aristocrates.
Je dirais très paternaliste, parce qu'on voit que sa famille, comme d'autres familles, par exemple, parraine les enfants, surtout de leurs gérants. Alors, ils ont des tas de filleuls. Ils font des églises, ils font des écoles pour les... Mais... Toujours d'une manière paternaliste. Donc, ils peuvent aider, donc ils aident s'ils sont des bons propriétaires. Bon, elle dit qu'en Ukraine, les paysans n'ont jamais été des serfs. C'est possible. Moi, c'est peut-être dans d'autres régions de Russie où ils étaient vraiment serfs. Mais ils ne sont pas non plus propriétaires de leurs terres. Donc, elle ne décrit pas très exactement le mode de propriété. Je pense que c'est des métayers. Et qui travaille en partie pour eux, travaille en partie pour les vrais propriétaires. Et alors, on a l'impression que, par exemple, le domaine est très fertile. mais il est très improductif. Parce que, apparemment, le père n'a pas fait d'études d'agronomie, ni ne surveille très exactement ses gérants. Donc on voit très bien qu'il se fait voler, entre guillemets. C'est une manière de redistribuer, finalement, la richesse. Hein, oui. Parce que, oui, il naît 10 petits cochons tout d'un coup, et puis on n'en retrouve que 7. Il y en a 3 qui ont disparu et puis qui réapparaissent plus loin dans les fermes des paysans. Donc, il y a par exemple un autre exemple. Ils ont 30 vaches qui donnent du lait. Et souvent, ils n'ont pas de beurre. Ils doivent aller acheter le beurre à l'extérieur. Donc, ils ne savent pas non plus, en tout cas dans cette famille, exploiter au maximum ce qu'ils ont à leur disposition. On sent un certain laisser-aller. Le père fait de la botanique, il lit, il bricole les jouets de ses enfants, mais il surveille très mal son gérant. Il serait un très mauvais patron, pas capitaliste. En fait, moi, j'ai trouvé aussi, en dehors du paternalisme, beaucoup de correspondance avec certaines choses qu'on trouve dans les pays dits sous-développés aujourd'hui. Chez les classes très riches, qui ont à leur service justement une quantité incroyable de gens, mais qui pourraient avoir à leur disposition certains moyens techniques pour vivre mieux, ou bien d'après nos critères, mais qui préfèrent en fait avoir 10 personnes qui lavent le linge à la main, etc., plutôt que d'acheter une machine, etc. Ils préfèrent être servis, en fait, par des gens. Et toutes ces questions, ces manières un peu anachroniques de vivre, de ne pas surveiller très près la production, tout ça, ça a beaucoup, en fait, j'ai vu ça. Dans certaines régions de Colombie ou du Venezuela, des immenses domaines, mais finalement assez improductifs, du point de vue capitaliste, disons, oui. Du rendement capitaliste. Mmh. Et ça, on le trouve, en tout cas, c'est l'impression que j'ai eue en lisant ce livre Marie Gagarine, Blond était les blés d'Ukraine. Une autre chose intéressante qu'elle décrit, par exemple, elle décrit les petits villages de la région où elle habite. La région s'appelle exactement la Podolie. Elle est très près de la Pologne actuelle et de la Roumanie. Et elle décrit par exemple le village. Le village est baraque misérable, marché très coloré. Là aussi, il y avait des choses qui me rappelaient certains villages, par exemple, sud-américains. Et à l'intérieur, 3 communautés qui vivent bien distinctes. Par exemple, le médecin, les avocats et les commerçants sont tous des juifs. Qui ont leur synagogue, qui parlent yiddish, qui ont leur magasin kasher, qui ont leur école, qui vivent en groupe clos, tout à fait pour eux. À côté de ça, il y a les Ukrainiens qui sont en grande majorité des paysans, mais dont l'élite se confond avec l'intelligentsia russe, disons. Les paysans portent le costume ukrainien, qui est assez caractéristique. Et puis les Russes, disons, c'est les fonctionnaires, des militaires en général.
Parce qu'il y a déjà cette distinction russe-ukrainien, c'est-à-dire qu'il y a déjà cette domination de la partie russe du pays.
Absolument. Et elle dit une chose assez que j'ai trouvée assez caractéristique à un moment donné. Elle dit, bon, en plus dans ce village, il y a une petite noblesse d'origine polonaise qui est aussi distincte, qui se différencie. Le boulanger est turc, enfin il y a plein de gens de mélange. Et elle dit, la nationalité chez nous n'était pas facile à définir. Officiellement, tout le monde est russe, mais en réalité, personne ne l'était vraiment. Et ça, je trouve que ça a une résonance assez fantastique aujourd'hui, quand toutes ces nationalités se réveillent, en fait. Je parle du Turkestan, l'Azerbaïdjan, la Moldavie, enfin, toutes ces régions russes qui ont des revendications aujourd'hui nationales, qui veulent parler leur langue, qui veulent moins de pression, en tout cas moins de gouvernement central, plus d'autonomie, tout ça. Eh bien, déjà à l'époque, enfin, il y avait, c'était très vivant ces différences nationales. Par exemple, les Ukrainiens disaient des gens qui ne s'habillaient pas en ukrainien, qui s'habillaient à l'allemande. C'est curieux.
C'est pas à l'européenne ou à l'occidentale,
non,
mais c'est à l'allemande.
C'est à l'allemande. C'est l'Allemagne, en fait, chez eux, qui représente l'Europe occidentale et l'habit civil du début du siècle en Europe occidentale. Bon, elle décrit aussi, par exemple, une séance du tribunal dans ce petit village de Podolie, où il y a ces communautés différentes qui vivent ensemble. Elle décrit le rythme des fêtes religieuses, parce que c'est apparemment une famille qui suit très exactement les fêtes
orthodoxes
russes, avec les périodes de carême et les périodes de gloutonnerie qui suivent, particulièrement à Pâques. Elle dit qu'à Pâques, toute la Russie est ivre. Et il y a comme ça beaucoup de choses, de descriptions intéressantes de cette vie quotidienne.
Est-ce que tu as l'impression qu'elle arrive à parler du peuple de quelle manière? Comment elle a appris à connaître ce que les gens autour d'elle vivaient? Parce que j'imagine malgré tout qu'il ne devait pas y avoir énormément de contacts entre les familles aristocratiques et le commun de la population, en plus de ces séparations qui existent par ethnie ou par provenance diverse.
En fait, elle... Bon, il y a deux choses. Moi, je me disais, un témoignage comme ça, fait alors qu'on a 90 ans et qu'on sait ce qui s'est passé après, est peut-être difficile à faire. Mais apparemment, il a beaucoup de fraîcheur. Et on arrive à se remettre à sa place. Au fond, elle n'a pas beaucoup de contacts, effectivement, avec les paysans qui l'entourent. Les seuls enfants qui viennent jouer avec elle et ses frères et sœurs sont les enfants du gérant. Et les enfants de l'instituteur de l'école du village près duquel ils ont leur château. Leur château est en dehors, évidemment, du village. Hein. Comme il est loin des communs, il est aussi loin du village. Donc, elle a assez peu de contact avec des autres enfants. Elle vit dans la maison avec ses frères et sœurs. D'une manière très libre, mais très, finalement très enfermée dans leur classe sociale. Les parents n'étaient pas des gens très sociables. Donc, ils voient assez peu leurs voisins. Alors que dans le cas d'autres familles, il y avait peut-être beaucoup plus d'échanges. Alors, elle, comme les filles sont élevées en plus à la maison complètement à l'époque, jusqu'à l'âge de 14 ans environ, elle est éduquée par sa mère et par des gouvernantes. Donc, elle ne va à aucune école. Donc, elle a très peu de rapports avec d'autres personnes qui ne soient pas les gens de sa famille étroite.
Alors, comment elle va connaître la vie du village, par exemple, à côté de chez elle?
Alors, la vie du village, elle la connaît au moment où ils vont faire quelques courses avec sa mère. Par exemple, avant Noël, ils vont acheter des choses qui leur manquent. Et de temps en temps, enfin, ils doivent aller... Leur nourriture provient en grande partie du domaine, mais ils ont quand même besoin d'aller s'approvisionner chez les boutiques des Juifs, puisque tous les commerçants sont juifs. Alors, c'est en allant à ces marchés... Qu'elle a pu, disons, nous raconter ça. Et bon, je suppose qu'elle a dû aussi en parler après. Et il y a une partie de sa vie qui est venue, de sa vie qu'elle a vécue après, qui a dû apporter aussi un certain nombre d'impressions. Parce que c'est vrai que ce n'est pas à 10 ans qu'elle pouvait faire des remarques très profondes sur la vie villageoise.
C'était de la musique de la région, c'est pas de la musique d'Ukraine, c'est Yorizamfir, de la musique roumaine, mais on reste dans l'esprit de la région.
Alors Evelyne, cette Marie Gagarine, on l'a dit, elle a vécu au début du siècle en Ukraine et donc elle va vivre les bouleversements qui ont agité la Russie dans le début du siècle, c'est-à-dire bien sûr principalement la Révolution russe. Alors ça, elle va réagir fortement à cette situation.
Alors effectivement, au moment où elle sort de l'adolescence, en fait, où elle est dans l'adolescence, toutes les traditions selon lesquelles elle a été élevée vont brusquement sombrer et disparaître. Il y a un monde complet qui va disparaître, un mode de vie va disparaître, des valeurs vont disparaître. Et évidemment, c'est une expérience assez forte pour n'importe qui dans une vie. Alors tout au début, la guerre est déclarée en 1914, il n'y a pas encore de grands changements, sauf pour elle. C'est la première fois que dans la famille, on va envoyer une fille dans une institution d'éducation. Parce que, comme j'ai dit avant, les filles, on les élevait à la maison. Les garçons les envoyaient au lycée, à l'âge du lycée, mais les filles pas. Et elle va être envoyée dans une espèce de pensionnat pour jeunes filles nobles dans la ville de Kiev. Et là aussi, peut-être aussi la guerre va aggraver les choses, mais là aussi on se rend compte que cette institution pour jeunes filles nobles, elle me rappelle plutôt un orphelinat pour enfants pauvres anglais du 19e siècle, parce qu'on y mange très mal, il fait très froid, il y a de très mauvaises relations entre les enseignants et les pupilles, qui sont très surveillées. Elle me dit que c'était le seul moment où elle ne se sentait pas surveillée, c'est quand elle allait aux toilettes ou prier dans l'église de l'école. Plus la guerre avance et les approvisionnements deviennent difficiles, moins on mange dans cette école. Il fait tellement froid qu'elles finissent par aller aux cours avec leurs gants et leurs pèlerines. Donc, malgré tout, apparemment, elle apprend des choses. Et elle y reste en tout cas jusqu'en 1916, avec des sorties à Noël, par exemple, chez ses parents. Donc au début, il n'y a pas de grand changement. La guerre, à part avoir fait partir quelques employés du domaine, on ne sent pas de grand changement dans la région. Mais à partir de 1916, les choses vont commencer à se gâter vraiment gravement. Et finalement, le tsar va abdiquer. L'aristocratie n'en revient pas. C'est comme s'il n'arrivait pas à se rendre compte de ce qui arrive.
Parce qu'elle ne parle pas de soulèvement populaire des paysans avant, ou que rien de ça n'avait bouleversé la vie du château.
Pas avant 1916 environ. Mais de toute façon, comme elle donne très peu de dates, on a de la peine un petit peu à situer les choses. Mais à partir de 1916, les choses se détériorent. Et il y a des problèmes d'approvisionnement, il y a des problèmes de transport. La famille essaye un moment d'aller vivre dans une villa qu'ils avaient à Odessa. Et comme les Français occupaient le port, il y avait une espèce de semi-ordre dans la ville. Mais je crois qu'en 1917, les Français se retirent. Et c'est pour les Russes le dernier lien, les aristocrates russes, le dernier lien avec l'Occident qui seront. Et c'est le signal de la fuite hors de Russie. Mais la famille décide de rester, essaye de liquider au mieux ses biens, enfin ses bijoux, et rentrer sur les terres, parce qu'ils pensent qu'ils seront plus sûrs dans leurs terres d'Ukraine. Alors à partir de ce moment-là, Marie suit la famille et assiste, alors oui, aux queues, aux garbondés, ils perdent leurs valises, donc finalement ils perdent tous leurs biens, ils rentrent chez eux, ils ont juste un toit pour les abriter, puisqu'il y a toujours le château, et puis la nourriture qu'on trouve sur le domaine. Mais là aussi, de plus en plus, les choses vont être bouleversées parce que, en 1918, l'Ukraine se déclare indépendante. Les Allemands viennent un petit peu avant la fin de la guerre, occupent l'Ukraine en disant qu'ils viennent sauvegarder aider les Ukrainiens à maintenir leur indépendance. Puis ils se retirent, puis viennent les Autrichiens, puis viennent les Polonais, puis viennent les Blancs, puis viendront finalement les Bolcheviks. Alors il y a une succession dans la région de gouvernements différents, il y a des bandes de soldats partout, évidemment atmosphère de pillage, rapine, le château devient une auberge militaire. Alors là, évidemment, c'est vraiment un monde de confusion totale, où finalement ça va être les plus malins, les plus ingénieux qui vont s'en sortir. Alors là aussi, elle décrit, enfin, on a une idée assez forte de ce désordre général où on se rend pas compte de ce qui se passe vraiment, on ne sait pas qui gouverne vraiment, les nouvelles internationales sont très peu, arrivent très mal, il y a une désinformation complète. Mais à partir du moment où un régiment bolchevique va s'installer dans le château et la forcer à les suivre, Marie va se rendre compte qu'il est peut-être temps de trouver une autre solution, qu'on ne peut définitivement pas rester dans ce pays pour elle. Et elle va décider de s'enfuir après toute une série de péripéties. Cette partie-là du livre est un vrai roman d'aventure, en fait, parce que tout est tellement difficile et confus qu'elle va, elle va finir par passer clandestinement en Roumanie, qui... la nouvelle Roumanie, si on peut dire, parce que la province de Bessarabie qui appartenait à l'Union, enfin à la Russie avant la guerre, est donnée à la Roumanie et c'est juste de l'autre côté du fleuve d'où elle habitait. Donc elle va passer en Roumanie et grâce aux liens qu'entretenait sa famille aussi en Roumanie, où ils avaient aussi des terres, parce que c'est, évidemment cette aristocratie, elle avait des...
d'immenses propriétaires foncières.
Oui, absolument. Elle va pouvoir avoir un minimum, disons, de pension qui va lui permettre de suivre l'université et puis après d'entreprendre un long chemin d'exil qu'elle ne raconte pas. L'ouvrage s'arrête là. Et sa fille, Masha Merrill, l'actrice Masha Merrill, qui a préfacé le livre, a promis d'écrire la suite de l'histoire. Alors, on verra peut-être qu'on en saura plus. Mais de toute façon, je voudrais conclure en disant que ce témoignage est très intéressant parce que effectivement, pour une fois, moi j'ai lu souvent des ouvrages sur cette époque, mais rarement du point de vue des aristocrates eux-mêmes, et c'est un point de vue qu'il faut connaître aussi.
Et son intérêt, semble-t-il, est que cette femme a un art d'observer assez fantastique et que l'attrait du détail de la vie quotidienne est une chose passionnante, non ?
Oui, absolument. Elle a très bien fait ça et... peut-être le fait, disons, qu'elle-même soit un personnage tellement extraordinaire qui a su survivre, hein, parce qu'elle avait tout perdu. Elle a perdu famille, patrie, fortune, etc. Tout. Bon, elle avait aussi, grâce à ça, tout était possible devant elle. Hein, un monde qui s'écroule donne des possibilités incroyables aussi de reconstruction, de choses nouvelles. Mais il est vrai qu'elle avait en elle une vigueur extraordinaire qui a fait qu'elle a pu s'installer ailleurs et qu'elle a pu mener à bien, disons, beaucoup. Je crois qu'elle a élevé en partie seule ses trois filles et elle a pu le faire malgré qu'elle ait au départ tout perdu et qu'elle a été élevée pas du tout. Elle n'ait pas du tout été préparée pour la vie qui l'attendait en fait.
Est-ce que tu la sens, elle, nostalgique ? On disait au début que c'est pas que ça a l'air nostalgique d'après le titre, mais dans le fait que dans le contenu ça ne l'est pas tellement. Mais est-ce que tu la sens, elle, nostalgique de cette époque ? Elle regrette ?
Non, non. Elle n'est jamais retournée d'ailleurs. Et son frère n'est jamais retourné sur les terres. Elle donnait pas du tout l'impression de vouloir retourner.
Voilà, alors on rappelle le titre du livre et de son auteur, autrice. Je ne sais pas comment il faut qu'ils disent. On est toujours très embarrassés encore avec ces féminins dont on n'a pas l'habitude de les employer. Alors, Blond était les blés d'Ukraine, écrit par Marie Gagarine.
Aux éditions Lafon. 1989, le livre est sorti il y a 2 mois.
Et donc on vous le rappelle que vous trouvez bien sûr à la librairie L'Inédite à Genève, rue Cardinal Mermillot. Alors maintenant, c'est Annette qui nous parle du livre qu'elle a choisi pour nous, qui s'appelle Le pays des asphodèles, écrit par Adrienne Durand-Tulou. Qu'est-ce que les asphodèles, Annette ?
Ah, voilà. Bien sûr. C'est la question que tout le monde pose. Chaque personne à qui je parle un petit peu de ce livre que j'ai beaucoup aimé, je le précise tout de suite, me demande mais qu'est-ce que c'est que les asphodèles ? Alors dans ce livre, vous trouverez d'ailleurs une photo qui représente l'asphodèle. C'est donc la fleur extrêmement simple d'ailleurs qui pousse sur le Causse. Ce livre se passe dans la région du Causse, donc pas très loin des Cévennes. C'est une région aride, désolée, où il y a très peu de fleurs, mais il y a notamment les asphodèles qui fleurissent au printemps et qui sont un peu le témoignage pour les gens de là-bas du renouveau du printemps.
Alors, c'est aussi une sorte de biographie que nous allons partager avec toi, puisque c'est l'histoire d'Adrienne Durand-Hulot qui est racontée dans Le Pays des Asphodèles. Qu'elle raconte, en fait. Pas qui est racontée, mais qu'elle raconte elle-même.
C'est donc elle qui raconte la partie principale de sa vie, c'est-à-dire que elle commence quand elle est une jeune fille fraîche émoulue de l'école normale de Nîmes et elle cherche un travail d'institutrice. Elle souhaite depuis longtemps travailler dans l'enseignement en milieu rural, au grand désespoir d'ailleurs de ses parents qui souhaiteraient plutôt qu'elle fasse une carrière un petit peu plus traditionnelle.
C'est rare, dis donc, ça, qu'on souhaite une carrière pour une jeune femme.
Bon, à l'époque, c'est donc les années 37-38, juste avant la guerre. Elle obtient donc finalement un poste dans un village qui pour elle est complètement inconnu. C'est Rogue. Alors, elle regarde sur une carte pour savoir où elle va aboutir. Elle part au mois de janvier, d'ailleurs. Et
L'Écosse au mois de janvier.
Voilà. C'est il triste. Fait très froid. Les moyens de locomotion sont plus que rudimentaires. Elle va dans l'inconnu total. Et je trouve que ça, c'est un exemple très précis du courage de cette femme. Tout au long du livre, d'ailleurs, on a beaucoup de plaisir à la découvrir. C'est quelqu'un qui est extrêmement agréable à suivre, si je puis dire. Et elle a un tel courage, justement, dans sa vie, une telle franchise, un tel respect aussi pour cette région dans laquelle elle va vivre et qu'elle va adopter, en fait, parce qu'elle va donc rester, vous l'avez sûrement deviné, toute sa vie sur le Causse, parce qu'elle s'est vraiment complètement intégrée à cette région dont elle rêvait déjà jeune fille.
Alors, c'est vrai que les enseignants français courent toujours ce risque insensé de se faire nommer à l'autre bout de la France, oui. Parce qu'on ne leur nomme pas, on ne les nomme pas forcément dans une école qui est dans leur ville d'origine. Donc, elle choisit de quitter sa région, c'est assez exceptionnel quand même. Est-ce qu'elle raconte pourquoi elle était attirée par ces causes ?
Elle ne le raconte pas directement, mais on sent que sa motivation, c'était la découverte d'un milieu encore extrêmement pur. Si on peut dire, et elle loin de toutes les nuisances de la société de consommation. Pour elle,
donc,
c'était très important.
Dans le temps, on se situait vers quelles années, tu disais,
alors,
1937
ça, oui, ça commence dans les années 37, et donc on va poursuivre dans ce livre toute la carrière d'Adrienne Durand jusque dans les années 70. Donc ça couvre un très long laps de temps, et en fait, il y a beaucoup de retours en arrière, si on peut dire, puisque pas mal de chapitres du livre sont consacrés au récit des vieilles personnes avec qui elle parle, puisqu'en fait, elle reconstitue le passé de ce village. Elle essaye de comprendre comment les maisons se sont construites à tels endroits, quelles étaient les coutumes avant qu'il y ait, par exemple, des magasins dans les villages avoisinants, comment les gens travaillaient la terre, comment les gens avaient entre eux des relations, etc. Et dans ce sens-là, elle fait un travail donc, d'historienne extrêmement intéressant et très vivant, puisque chaque fois, elle participe, elle, à l'aventure, en fait.
Et ses sources d'information, c'est des gens vivants. Donc
voilà. Elle passe beaucoup de temps à interviewer les vieilles personnes qu'elle peut rencontrer. Et elle fait d'ailleurs un travail, pas seulement d'interview, si on peut dire, mais elle fait aussi un travail de recherche historique et ethnographique. Elle raconte au début justement que ce qui l'intéressait, c'était courir la campagne le dimanche avec ses élèves pour récolter des vieux cailloux. Elle trouve des fossiles, par exemple. Elle explique aux enfants comment était ce territoire à l'époque glaciaire. Elle fait un immense travail de reconquête historique avec les gens du village. Et dans ce sens-là, c'est extrêmement vivant, plus vivant qu'un simple récit historique qui raconte qu'à l'époque, on vivait comme ça.
Apparemment, les gens du village se sont complètement pris au jeu de sa démarche. Donc
voilà. Alors effectivement, au début, elle doit faire pas mal attention à la manière dont elle entre en rapport avec ces gens qui sont encore extrêmement dans un milieu encore extrêmement protégés, qui ont peu quitté leur village. C'était l'époque de la guerre, où de toute façon il y avait des restrictions, il y avait des impossibilités de partir, et où en fait on retrouvait à ce moment-là des techniques anciennes pour parer au dénuement, à la malnutrition qui régnait à cette époque. Elle raconte aussi les coutumes pour soigner les gens, par exemple, quand on était malade, quelles plantes il fallait choisir. Donc tout ce qu'on lit presque sur l'époque moyenâgeuse revit un petit peu à l'époque d'aujourd'hui. Et en fait, je pense que la motivation profonde qu'elle avait de partir à la montagne, loin de la ville, c'était vraiment l'idée de rechercher un autre mode de vie. Et aussi nous redonner à nous aujourd'hui la possibilité de le connaître d'une manière assez intime. Et toute sa vie, elle l'a passée d'ailleurs à raconter ce village à l'extérieur et en somme à lui redonner une popularité, même une célébrité si on veut, pour que tout soit conservé. On parle souvent de la mémoire qui disparaît. On dit souvent qu'il y a peu de documents sur le travail des femmes, par exemple, dans certaines sociétés, dans certains endroits. Et je crois que là, il y a un document justement très intéressant parce qu'elle s'est beaucoup intéressée aussi à la vie des femmes dans ces villages.
L'institutrice a quand même, ou l'instituteur, parce que je crois que c'est la fonction, oui. Mais les gens dans un rapport assez privilégié quand même dans un village.
Bien
à la
sûr,
fois, c'est les gens
sûr.
Qui détiennent le savoir et puis on envoie les enfants. C'est vraiment une place privilégiée.
Je crois que surtout, comme elle le décrit, ça a été pour elle une approche très positive des gens de la région parce qu'elle s'adressait à leurs enfants. Évidemment, c'est quand même plus facile de parler à un enfant au départ qu'à une vieille personne qu'on ne connaît pas et qui sera peut-être sur la réserve, sur la défensive, si on l'interroge un petit peu sur sa manière de vivre, sur ses idées, sur comment il a vécu jusqu'à maintenant. Alors là, effectivement, elle a eu, grâce à son travail de maîtresse d'école, une entrée très facile chez les gens, chez les parents de ses élèves. Bon, elle s'est mariée d'ailleurs, hein, très rapidement. Elle s'est liée avec un paysan de là-bas et elle a vraiment lié sa vie avec le village.
Que faisaient les femmes dans ce village ?
Elles étaient essentiellement paysannes. Alors, elles avaient un gros travail d'exploitation à faire. Elles avaient effectivement aussi presque toute la charge de l'organisation de la maison, dans le sens qu'effectivement, peu à peu, on sent d'ailleurs, dans les dernières années, que tout l'aspect autarcique de la vie disparaît. Mais au début de l'histoire, justement dans les années 40, là, le village vivait essentiellement sur tout ce qu'il pouvait produire. Alors effectivement, les femmes travaillaient encore énormément la terre aussi et devaient faire le pain, faire les fromages, s'occuper des bêtes. Elles avaient énormément de travail de ce côté-là.
Est-ce que, puisqu'elle écrit sur un laps de temps qui est long, mm-hmm. c'est toute une vie passée dans ce village, est-ce qu'on se rend compte au fur et à mesure de la transformation du village ? Parce qu'on sait que malheureusement, beaucoup de villages des Causses et des Cévennes ont été désertés parce que mm-hmm. la vie était trop dure, il manquait d'eau, oui, etc. Oui. Et puis, si à Rogue, les gens sont restés, si elle y est
Alors,
restée...
Alors, elle raconte bien qu'à Rogue, les gens partent aussi. Et en fait, au moment où elle arrive à la retraite, elle y arrive presque fatalement, pas seulement à cause de son âge, mais surtout parce qu'il n'y a plus d'enfants. Et elle dit, la dernière année, je n'avais plus qu'un seul élève. Et c'était un signe que je devais fermer l'école. Alors là, il y a effectivement une certaine tristesse qui s'installe. Mais de nouveau, c'est une femme tellement positive et qui nous emporte dans tous ses récits que c'est transformé, en somme, dans quelque chose de positif.
Est-ce que tu voulais nous lire un petit extrait ? Je crois que tu l'as à la page ouverte quelque part. Est-ce que tu avais l'envie ?
Je voulais peut-être parler d'un passage vers la fin du livre que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Elle raconte d'ailleurs elle-même, elle a fait une thèse, entre autres, Adrienne Durand-Tulou, dans toutes ses occupations, pour présenter ce fameux village de Rogue et toute la tradition ancestrale qu'elle a réussi à décrire. Et une fois qu'elle a un petit peu élagué toutes ses connaissances du village,
elle s'intéresse à ce qu'il y a autour. Et notamment, elle s'intéresse à l'élevage des brebis. Et elle a un grand désir, c'est participer à la transhumance, ce grand voyage des troupeaux quand ils partent de la plaine pour arriver jusque dans les pâturages de l'été. Et alors, elle raconte ce passage qui est extrêmement intéressant. Et elle arrive aussi à nous faire communiquer avec la vie des pâtres qui sont presque une caste dans cette région.
Juste quelques notes de musique histoire de tourner notre page radiophonique et ensuite nous passerons à la lecture de ce passage.
Alors.
Tutti mi dicono.